Je traite dans l'espace de la peinture les questions qui sont les miennes. Le double, la cruauté, l'enfance, dans ce qu'elle annonce de la vie. J'essaie de créer, par la peinture, une zone de transformation possible pour accueillir ce qui est en devenir et aborder l'enfance sans naïveté. Alice n'est plus une toute petite fille et tout le monde le sait. Génial. Françoise Petrovitch est ce soir notre invitée à l'occasion de sa rétrospective à Landerneau. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Étienne Dao et Dominique A. en surface.
Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface, je me voulais léger, léger. Du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas. La beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume. Ignorais la stèle et l'enclume. Je balayais mes propres traces. Que de temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas succomber. Aux splines et aux étoiles implombées. Que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo. Et hier, à la mauvaise place. Je n'aimais pas trop mon cerveau. Mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface. Tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface. Délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées. Et claqué le temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface.
Vous mettiez-vous souvent les mains sur le visage quand vous étiez une enfant, Françoise Petrovitch?
Ah, je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Je regardais plutôt le monde. Je regardais. Je me mettais pas les mains sur le visage, mais peut-être que je rougissais. Donc, est-ce que c'était aussi un écran? J'en sais rien.
En tout cas, le dessin, ça a commencé très 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 jeune, dans la haute enfance.
Bah, je me rappelle toujours avoir dessiné. Donc
en même temps que marcher.
Alors là, je me rappelle pas avoir marché, par exemple. Je me rappelle avoir dessiné. Et puis je sais que à 6 ans, l'institutrice nous avait demandé à tous qu'est-ce que vous voulez faire comme métier. Et moi, j'avais dit dessinatrice. Et j'ai jamais changé mon chemin, quoi. J'ai toujours voulu faire ça.
Et vous avez appris?
Alors, j'ai appris ensuite dans une école d'art appliqué, puisque j'ai fait les arts appliqués, j'ai fait normal sup en art appliqué. Donc on apprend à dessiner, mais je...
Mais vous le saviez déjà. Est-ce que ça s'apprend?
Ah si, ça s'apprend, mais ça se... Ça ne fait pas que s'apprendre, c'est impossible d'être que dans un apprentissage. C'est un désir de dessiner, c'est saisir les choses, c'est avoir envie de les garder, c'est avoir envie de tracer, on est donc dans... C'est une action aussi. Hein.
Alors il faut dire à nos auditrices, à nos auditeurs que vous pratiquez tous les formats, y compris les plus grands, que vous inscrivez vos œuvres dans l'espace et que vous avez une gamme très accompli de création, puisque vous travaillez aussi bien le dessin, la peinture, la vidéo, la céramique, le verre, l'acier, et j'en oublie sûrement. Donc, toutes ces choses-là que vous créez maintenant et qu'on peut découvrir avec une grande jubilation, donc à Landerneau, elles ont eu une genèse, elles ont eu une histoire. Au début, c'était le dessin sur la page blanche.
Oui, toujours. Et ça reste toujours un peu le dessin, où c'est dans ma tête. Et à partir de là, ça va se prolonger, ça va s'augmenter, ça va se diversifier. Mais c'est vrai que c'est toujours un dessin. Et même pour une sculpture, par exemple, je ne vois que d'un côté, on va dire. Une sculpture, c'est un art en trois dimensions. Et moi, je vois la face et je sais comment est derrière.
Et vous voyez quoi quand vous créez? Et la matière de vos rêves est-elle une source d'inspiration, Françoise Petrovitch?
Pas vraiment. Je me suis souvent posé cette question en me disant est-ce que ce serait utilisable? Et puis non, finalement non. C'est plutôt ce que je vois en réel. C'est-à-dire c'est plutôt le monde.
La beauté du monde, plutôt. Quand on voit votre œuvre, c'est plutôt la beauté. Même si la beauté de la nature, la beauté des visages, la beauté des enfants, la beauté d'un bouquet de fleurs. Évidemment, tout ça fait un peu ringard aujourd'hui dans une période où c'est plutôt le côté disloqué de la réalité qui envahit les simèzes.
Ouais, mais cette beauté, c'est toujours une beauté qui est fragile. C'est justement, moi, je trouve que le mot beauté fait partie du vocabulaire de l'art contemporain. Mais c'est souvent une beauté, pour moi, qui peut être un peu abîmée, qui peut être un peu tordue, un peu amputée aussi de choses. Mais je pense qu'il y a toujours la beauté.
Une beauté qui peut disparaître. On a l'impression que vous, en tant qu'artiste, Françoise Petrovitch, vous êtes peut-être là pour saisir ce moment de beauté avant qu'il ne disparaisse.
Moi, j'adore le saisissement. Je trouve que le dessin, c'est l'art du saisissement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut rendre permanent quelque chose qui ne l'est pas.
Donc la peinture, c'est la tentative d'embrasser l'éternité.
Ah oui, sûrement.
À quel moment vous avez été reconnu, entre guillemets? Est-ce qu'il y a eu des longues années où vous avez travaillé seul dans votre atelier, sans savoir si vous alliez pouvoir en vivre?
Oui, bah bien sûr, parce que déjà moi je viens pas d'un milieu artistique ni culturel, donc déjà ce pas-là il est énorme, c'est-à-dire s'imaginer que je dis que je suis dessinatrice, mais je sais même pas ce que ça veut dire comme métier, quoi. Mais
moi je dis que vous êtes artiste et d'ailleurs vous êtes reconnue comme artiste. Vous dites dessinatrice.
Non, pas du tout. Mais je veux dire, quand j'étais enfant, je dis dessinatrice. Je savais même pas que le mot artiste existait. Donc je voulais faire du dessin, donc je dis dessinatrice. Après le temps a été long pour. Il a été long parce que je sais pas, pas avant 40 ans, quoi, au moins de oui.
Et vous avez toujours cru en vous-même?
Oui. J'ai pas cru au succès, mais j'ai cru que c'était... parce que je croyais en l'action de faire. Il n'y avait même pas de question. Enfin, je me posais même pas la question de « je ne vais pas le faire » ou « je vais arrêter », c'était pas possible.
Dans votre univers, Françoise Petrovitch, il y a une sorte d'engourdissement des sens, il y a une sorte d'ensommeillement du monde... Certains de vos personnages récurrents à l'intérieur de votre œuvre sont presque endormis, ou alors ils sont en train peut-être de s'endormir, ou ils sont en train de chuter, comme si la peinture avait la curieuse aptitude à exorciser ce qui n'existe plus. On est dans une absence-présence avec vous.
C'est vrai, parce que ils sont là. Il y a une présence physique de eux, c'est assez puissant, enfin plastiquement.
Oui, il faut dire aux auditrices et aux auditeurs, Françoise Petrovitch, que vous faites des personnages humains qui sont très grands, aussi grands que dans la vie et quelquefois beaucoup plus grands.
Oui, des fois une tête peut faire 2 mètres, mais en même temps ils sont en eux-mêmes, donc comme ils sont en eux-mêmes, Ils sont dans un entre-deux. Moi-même, je ne comprends pas très bien si... je ne pourrais même pas vous dire s'ils dorment ou s'ils ont les yeux fermés ou s'ils sont dans une pensée. Je ne sais pas, moi.
Ben là, vous avez les yeux ouverts, là, dans ce studio.
Complètement. Mais...
Oui, complètement, d'ailleurs. Les yeux grands, grands ouverts, comme on dit. Mais par contre, dans vos peintures, beaucoup de visages ont les yeux fermés ou beaucoup de visages ont des masques pour cacher leur regard. Pourquoi ?
C'est une façon aussi de regarder une peinture qui ne nous regarde pas. J'ai l'impression que si on quand je visite une expo, par exemple une galerie de portraits au Louvre, je vais voir une série de portraits qui me regardent et je vais être en dialogue avec eux, mais avec les yeux. Je vais être en dialogue avec quelqu'un et Si les yeux sont fermés, on a plus dialogue et on regarde la peinture en entier. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on regarde la matière picturale et on s'abstrait un peu d'un échange avec une personne.
Vous voulez dire que pour bien voir la peinture, il faut fermer les yeux ?
Un peu.
Vous voulez dire que la peinture, c'est un état mental ?
Complètement. Et la peinture se rêve, la peinture se souvient. On se souvient de la peinture.
Vous voulez dire que la peinture est autonome, qu'elle a sa puissance propre ?
Ouais, totalement.
Donc quand vous faites une œuvre, Françoise Petrovitch, elle appartient à l'œuvre, elle ne vous appartient plus, vous vous en détachez, vous n'y êtes plus pour rien.
Ah ouais, complètement. Alors là, c'est pas du tout un souci pour moi de me détacher des œuvres.
Mais vous ne les oubliez pas pour autant, vous avez un peuple d'enfants, d'adolescents avec vous, que vous avez créé ex nihilo.
Oui, d'ailleurs, l'autre jour, il y avait beaucoup de... Je préparais l'expo, il y avait beaucoup de toiles dans l'atelier, il y avait beaucoup de dessins, il y avait beaucoup de... Et je suis rentrée dans l'atelier, je me suis dit, il est trop peuplé. J'ai l'impression qu'il y avait trop de monde.
Ils vous parlent, les personnages que vous dessinez et que vous peignez ?
Non, ils ne parlent pas. Non.
Ils sont sages ?
Assez.
Ils ne vous perturbent pas ? Ils ne vous disent pas, c'est pas comme ça que je devrais être ?
Ah non, 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 j'ai pas... Non, non, ils existent, ils sont là, mais ils ne participent plus avec moi, après c'est fini.
Ils sont obéissants, donc.
Assez.
Pas forcément.
Bah, je sais pas, ça. Je sais pas.
Je vous propose d'écouter la voix de Jean Dubuffet à propos de sa pratique artistique. On peut penser à Dubuffet dans certains cycles de votre travail, Françoise Petrovitch, parce que il y a tellement du don de soi-même, il y a tellement de sincérité par rapport aux matériaux que vous utilisez. Vous allez écouter donc la voix de Jean Dubuffet, c'est une archivina du 20 janvier 1961.
Je ne me considère pas comme un professionnel, je me considère comme un amateur. J'entends le rester. Je veux être dans la position d'un pêcheur à la ligne qui fait les choses pour son plaisir et quand il en a envie, sans être tenu à quoi que ce soit.
Je peins pour le seul grand plaisir que j'éprouve à peindre. Mes tableaux sont toujours destinés exclusivement à mon propre usage. Quand je peins, j'ai l'impression de commencer seulement à voir les choses, de les voir dans une lumière toute nouvelle, porteuse de révélations. Ça me fait le même effet que de regarder les choses à travers une lunette enchantée. Ça devient même chez moi comme une espèce de vice. Mes yeux ne me servent plus à grand chose. C'est la peinture qui me sert Dieu. Quand je suis... Si je regarde une pierre dans la campagne, j'ai l'impression de ne voir rien du tout, de n'en connaître rien du tout. C'est seulement au moment où, de retour chez moi, je peins, j'entreprends de peindre une pierre, que j'ai l'impression de prendre une connaissance de ce qu'est une pierre.
Nous venons d'entendre la voix de Jean Dubuffet, et effectivement, sur sa pratique artistique, il y a des résonances avec votre manière d'envisager ce que veut dire créer, Françoise Petrovitch.
Il parle du plaisir. Il dit que le plaisir, c'est le moteur. Et moi, je suis complètement... Enfin bon, pour moi, c'est quand il n'y aura plus le plaisir de peindre, il n'y aura plus de peinture. Et il parle d'amateur, c'est aussi se dire que... Quand il dit « je peins pour moi », c'est-à-dire « je peins pas dans un but d'un marché, d'une voilà, il faut, on est là et ça se fait à ce moment-là. Et puis il y a la connaissance aussi, c'est-à-dire peindre pour connaître, peindre pour comprendre. Et ça c'est génial parce que on a l'impression que plus on lit, moins on sait qu'il y a des choses à lire et on a l'impression que c'est immense. Et la peinture c'est exactement la même chose, c'est-à-dire plus je peins, plus j'ai l'impression que je sais rien et que tout est à faire et que tout est à essayer et que du coup c'est très ouvert, c'est très grand.
Que sait-on du monde? Dubuffet disait que quand il ramasse une pierre dans un chemin, il ne sait pas ce que c'est que cette pierre et qu'il va lui falloir beaucoup de temps pour l'appréhender. Est-ce que la peinture, pour vous, c'est une élucidation du réel? Ou c'est un décalque un peu flou, un peu onirique du réel?
C'est un peu les deux, hein. C'est-à-dire que ça dépend comment on a envie de... Parfois, j'ai envie de voir précis, de comprendre, d'être dans une compréhension. Et puis des fois, j'ai surtout envie de rien comprendre et qu'elle m'amène là où elle a envie de m'amener. Ça aussi, c'est intéressant parce que finalement, peindre, c'est... Moi, je ne fais pas de croquis préparatoire à la peinture. Donc, je ne sais pas ce qui va advenir quand je peins.
Même quand vous faites d'immenses formats?
Non, je l'ai fait tout de suite en grand, j'aime bien. Parce que sinon, j'ai l'impression que je vais répéter et que ce sera moins bien et ça m'agace. Donc je laisse porter et je veux surtout ne pas m'ennuyer et si je refais, je m'ennuie. Donc il faut je préfère rater un grand et puis et revenir ailleurs, mais disons que j'aime bien, c'est très aventureux. La peinture, c'est très aventureux.
Vous faites des gestes avec vos mains, Françoise Petrovitch, comme si vous étiez en train de
le faire.
Fabriquer une pâte pour faire du pain.
Ah! Et oui, on parle de la pâte en peinture. On malaxe. C'est un état de surface et on le prépare, cet état. Et donc, il y a une matière à apposer. Et donc, on prépare et on laisse advenir. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de cuisson à ce moment-là, peut-être.
On peut parler aussi du devenir de l'œuvre, du devenir de la création. On a l'impression, avec votre travail, Françoise Petrovitch, qu'on est vraiment à la limite du subconscient, entre l'inconscient et le subconscient, et que vos personnages nous observent, nous qui pouvons les regarder, plus que le contraire. On est sous surveillance des personnages que vous créez. Vous créez aussi des personnages humains qui sont au bord du précipice, et vous créez un drôle de rapport pour nous avec votre œuvre, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont tellement déstabilisés qu'il faut qu'on aille les aider. Mais non, c'est eux qui nous aident en quelque sorte.
Ben il y a certaines sculptures qui s'appellent des témoins. Donc il y a une petite fille par exemple, ça s'appelle Presence in the Corner. Donc c'est une petite fille qui est dans un angle avec des drôles de formes un peu phalliques comme ça qui arrivent sur elle. Mais elle est punie dans un coin, donc on ne voit jamais son visage, elle écoute tout ce qui se passe, et elle est un peu plus petite que la réalité, elle. Donc du coup c'est bizarre, parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? D'abord c'est un trou noir, quand vous la voyez de loin dans un espace, c'est un trou noir, et puis on ne verra jamais, elle a des talons, donc c'est un peu étrange, puisque c'est une petite fille, mais elle a des talons. Mais elle nous écoute. Donc ça, ça fait un peu partie des sculptures que j'appelle il y a le lapin témoin. Donc c'est un lapin qui est assis et il a ses oreilles dressées. Donc après, il y a ceux qui s'appellent les sentinelles aussi. Donc ils écoutent, ils nous surveillent. Vous parliez de nous regarder, nous dominer, et en même temps, on ne sait pas trop quoi. Ils bougent pas.
Je citais en début d'émission une phrase de vous décrivant votre pratique artistique, Françoise Petrovitch. Et comme vous le disiez si bien et si malicieusement, tout le monde sait qu'Alice n'est plus une petite fille. Le pays de Lewis Carroll, c'est le vôtre. Mais il est revisité à l'aune peut-être de la psychanalyse et de l'inquiétante étrangeté, non?
Bah ouais, forcément. Et puis bon, en réalité, Alice, on comprend pas grand-chose, hein. Moi, j'aime pas trop les contes. Et celui-ci est quand même assez dingue, mais j'adore Lewis Carroll par contre. J'adore. Enfin bon, j'ai plus regardé ce qu'il a, les photographies qu'il a faites, et on a l'impression qu'il y a une fascination et en même temps on ne veut pas y toucher. Il y a quelque chose qui on rentre et en même temps on rentre pas dedans. Et j'aime bien cette d'être en bord limite comme ça.
Frigidité et en même temps le feu qui brûle.
Exactement.
Et les photos de Lewis Carroll sont des photos de petites filles devenant des jeunes filles. Donc,
ouais.
Dans tout votre travail, Françoise Petrovitch, il y a l'idée de la métamorphose. Mais la métamorphose qui n'est pas encore advenue. Juste avant que le papillon ne sorte de la chrysalide.
C'est en train d'émerger, c'est en train de pousser. Par exemple, quand je réalisais céramique, souvent il y a des émergences, c'est-à-dire il y a des têtes de cerf avec des, je sais pas comment ça s'appelle pour les chevreuils là, les corps, les bois, je sais pas comment.
Les bois.
Ouais, les bois, mais je crois qu'il y avait un mot particulier. Et ces bois, ils poussent et en même temps, ils ont pas de forme et on sait que ça va pousser, mais c'est pas encore arrivé. Et c'est ce qui fait qu'il y a il y a ce sentiment du vivant. Parce que ça peut pas être une forme arrêtée, c'est une forme qui est en devenir. Donc même si elle est immobile, comme je disais tout à l'heure, c'est une forme, on sait qu'elle va bouger. Donc c'est celui qui regarde, il sait que ça va advenir. Et c'est ce travail-là qui est fait par celui qui regarde. Mais alors par contre, je n'ai pas de mode d'emploi sur ce qu'il faut voir. Je dis juste que ça arrive.
Je vous propose d'écouter la voix de Marguerite Duras qui va parler de ses souvenirs d'enfance, de la maison et de la mousson. C'est une archivina du 1er juin 1991 parce que je sais que vous aimez beaucoup Marguerite Duras.
Mon frère qui chassait les panthères, il s'ennuyait.
Mais qu'est-ce qu'il faisait avec les panthères?
Rien, il les foutait sous le bungalow, il les accrochait. On pouvait pas supporter. Ma mère, elle criait aussi, mais il n'y avait rien à faire. C'était plus fort que lui, quoi. Mais le courage qu'on pouvait avoir, c'était courage physique.
Vous aviez pas peur?
Le tigre, j'ai eu peur, parce que je l'ai vu. Ça a empoisonné mon enfance. Mais c'est des existences inoubliables. Il ne fait jamais froid, vous imaginez un peu ça. À la mousson, il fait trop chaud, mais il fait toujours bon quand même. Le soir, toutes les nuits sont fraîches. C'est la fête. La fête, quoi, c'est inimaginable. Ça tombe droit comme ça. Il n'y a pas d'orage. Comme si on versait des milliers de litres d'eau, quoi, droit. Tout est inondé. Les rues, les routes, les jardins, tout est inondé. Les paillotes. La mousson, elle gronde pas, il n'y a pas de tonnerre. C'est comme des continents de nuages qui avancent, mais très doucement, gentiment. Et puis, tac, ça tombe. Tout le monde court, les enfants. La force de l'eau peut les blesser. J'en parle beaucoup de la mousson. C'est un des grands souvenirs, ça. Ce qui arrive... Les tonnes et les tonnes de pluie. J'ai aucune idée de comparaison.
Nous venons d'entendre la voix de Marguerite Duras qui parlait de la mousson et de la liquidité de son enfance, qui a été très importante ensuite pour son œuvre. Et à l'intérieur de votre univers esthétique, Françoise Petrovitch, il y a aussi une sorte de côté liquide, c'est-à-dire que vous êtes une artiste du dessin. Vous savez dessiner sans jamais reprendre, mais cependant, vous floutez la réalité. Il n'y a jamais de point précis par lequel le regard va pouvoir s'accrocher. Il y a toute une série qui s'appelle Écho, et vous jouez là aussi beaucoup avec les reflets de l'eau, avec les bassins, avec tout ce qui peut troubler justement le regard.
Oui, dans cette vidéo qui s'appelle Écho, c'est une installation, c'est immersif. Quand Marguerite Duras parle de la mousson, là, elle dit que l'eau arrive, enfin, et elle mélange les choses. C'est-à-dire, l'eau permet de mélanger. Finalement, l'eau, c'est un liant aussi. Et dans Écho, il y a ce reflet, c'est-à-dire que il y a le dessin qui est projeté, et puis, comme il y a un bassin d'eau, comme un miroir d'eau devant, le même dessin se reflète. Alors, il y a très peu d'eau, mais on a l'impression que c'est hyper profond. Donc ça donne une verticalité comme ça, on est en nous-mêmes, on tombe, et le dessin a jamais la même forme. Il est toujours, il bouge, il est issu de quelque chose, mais il n'a rien à voir avec de quoi il est issu. Et du coup, ça... Mais c'est vrai que l'eau est souvent... J'ai fait des sculptures avec des fontaines, enfin des nappes d'eau, pareil aussi, pour le reflet. Il y a Narcisse, il y a une île. Il y a beaucoup d'îles qui sont dessinées avec le reflet, qui n'est évidemment pas le même reflet que ce qu'il y a au-dessus. Et puis moi, j'ai des techniques qui sont extrêmement liquides. Les techniques de la vie, j'utilise énormément l'eau. Donc, l'eau se diffuse, se répand, puis les formes par capillarité, il y en a une qui va advenir à l'autre. Donc, on laisse venir et je contrôle ou je contrôle pas ça.
Donc, il y a un côté un peu hypnotique à l'intérieur de votre pratique. Quand l'eau se répand sur un support, elle peut créer des formes, et s'il y a un tout petit peu de traces de couleurs, elle peut aussi créer des personnages, des paysages.
Oui, oui, ou servir de ça et rebouger à l'intérieur.
Donc la peinture, c'est le trouble.
Ouais, ça peut être le trouble, la peinture, parce qu'on... C'est inépuisable, la peinture. On ne sait jamais, vous la regardez 2 fois, 3 fois, 10 fois, on ne voit jamais la même chose. Donc, c'est le trouble. C'est trouble. Si c'était si net, on enleverait un coup, c'est bon.
Est-ce que la peinture, c'est aussi l'avant-garde de notre regard? Parce que vous avez toute une série de sentinelles. Et peut-être que vous, en tant qu'artiste peintre, vous êtes là pour... nous éveiller à des choses que nous ne voyons peut-être pas ou que nous ne voyons peut-être plus.
Ah ça, je sais pas. Moi, je fais et puis après, il y a des gens qui voient des choses que j'ai pas vues moi-même. Donc, je sais pas si j'éveille. J'ai l'impression que les gens m'éveillent en me parlant de ce qu'ils ont vu chez moi.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Françoise Petrovitch pour notre plus grand bonheur, PJ Harvey.
Je travaillerai sur une pièce encore et encore et encore jusqu'à ce que ça soit parfait. Si vous voyez dans le fond de l'atelier ici, il y a The Arch of Hysteria, l'arche de l'hystérie. Mais j'en ai fait une douzaine parce que je n'arrivais pas à produire ce que je voulais. Et c'est ce sens d'imperfection qui me fait continuer. On ne peut pas se lasser, n'est-ce pas? Il y a une espèce d'acharnement là que je possède. Je ne me fatigue pas des choses. Si j'ai un sujet, eh bien, il y a une chose éternelle là, qui revient et qui, comme un tissage, vous savez, on le fait, puis après on le refait, puis après on le refait, et puis après c'est pas parfait. Alors on le défait. Ça a à voir avec le thème de Pénélope, qui tissait sa toile pendant le jour, pendant qu'elle attendait son mari. Elle tissait pendant le jour et elle détissait pendant la nuit. Ça a à voir avec le tissage, puisque nous sommes des tisserands.
Nous venons d'entendre successivement donc PJ Harvey qui parlait de l'éther, et cette merveilleuse chanson résonne par rapport à votre univers. On a l'impression que votre œuvre, elle est dans une sorte d'éther. On va revenir là-dessus, Françoise Petrovitch, et puis on vient d'entendre la voix de Louise Bourgeois qui parlait en 1999 de son côté de Pénélope. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a fallu attendre l'âge de 40 ans pour être un peu connue et reconnue. Louise Bourgeois a attendu encore beaucoup plus longtemps. Mais je crois que comme elle, vous avez pas mal de points communs, notamment le côté faire, défaire, et surtout sur le métier, reprenons l'ouvrage et dédoublons et détriplons notre travail, et le côté aussi obsessionnel.
Obsessionnel.
Récurrence des thématiques.
Moi, j'ai pas l'impression du tout que je suis obsessionnelle. Mais bon, est-ce qu'un
vous faites des séries.
Est-ce que des obsessionnels disent qu'ils sont obsessionnels? Je suis pas sûre, c'est impossible. Donc peut-être. Et oui, je fais des séries. Ah oui, 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 oui. Et les choses reviennent, les choses. Mais par contre, j'ai l'impression presque dans mes séries, il y a pas tellement de progrès. Les choses sont déjà installées dans le premier dessin d'une série ou dans la première peinture, et puis. Elle va s'augmenter, ça va être une variation, ça va être un jeu sur l'un, puis après l'autre. Redéfaire, je supprime plutôt.
Comment ?
Je déchire.
Ça vous fait pas mal au cœur ?
Non. Ben non, parce que je récupère le papier pour faire des essais de couleurs.
Les ombres tiennent une place prépondérante à l'intérieur non seulement de vos dessins, mais aussi de vos peintures, comme si l'ombre était une sorte de double de chacun.
Oui, et en plus c'est un double qui nous quitte jamais. L'ombre, elle est tout le temps là, quoi. Et l'ombre, elle est mobile. L'ombre, elle est jamais dessinée d'une manière nette. Enfin, je trouve qu'il y a aussi cette. Puis l'ombre, elle est dans mon travail. Les ombres, elles sont pas réelles, listes. Elles sont jamais adaptées. Elles sont jamais corrélées à celui qu'elles joignent, quoi. Donc du coup, c'est des ombres qui racontent un peu, qui sont un peu ailleurs aussi.
Ombre, écho, tout a un écho.
C'est vrai, hein. Tout. Je trouve que tout.
Mais c'est difficile de savoir s'y repérer dans un monde où justement tout est ombre et pas tellement lumière et tout est écho, et comment savoir où est le vrai du faux.
Oui, bah, de toute façon, quand on... Bah, puis plus on fait, plus on se demande où est cette... Quel est ce réel ? Vers quoi Vous parlez d'éther, mais c'est vrai aussi que est-ce que l'immatériel, est-ce que ce qui est au-dessus, est-ce que ce qui est au-delà du ciel est plus réel ou moins, j'en sais rien. Enfin, tout ça, c'est vraiment des... Moi, je travaille dans le réel avec des choses très, très physiques. Et en même temps, j'ai pas forcément envie de parler du réel non plus.
Vous n'en parlez pas du tout à l'intérieur de votre travail. Vous n'évoquez pas ce réel.
Ouais, c'est vrai.
Et pourtant... Tout vous est support. On parlait de l'inspiration de la nature, on parlait de Lewis Carroll. Il y a aussi la radio. Écoutez ce qui s'est passé hier matin à 7h, qui est l'heure, je crois, où vous vous réveillez, Françoise Petrovitch.
France Inter, 7h.
France Inter, Nicolas Demorand. le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 30 novembre. Anaïs Feugin, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le variant Omicron détecté pour la première fois en France, à La Réunion. Un homme de 53 ans, de retour d'Afrique australe. Dès le début de ce journal, vous entendrez le chercheur qui a fait les analyses en 24 heures seulement. On voit ça après les autres titres, Anaïs.
Débat décisif ce soir pour les candidats, les Républicains à la présidentielle pour convaincre les indécis avant le vote des adhérents. Demain, débat à suivre en direct sur notre antenne. La Barbade quitte la couronne britannique. Cette perle des Caraïbes vient de se proclamer république. Et puis le PSG exulte, premier ballon d'or de son histoire grâce à sa recrue star Lionel Messi, sacré pour la 7e fois.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50 avec vous, Yaël.
Si la droite LR était un magasin de porcelaine, il serait l'éléphant qui veut tout casser pour recomposer au service d'Emmanuel Macron. Entre un Zemmour quasi-candidat et des Républicains qui débattent pour la dernière fois, le conseiller à l'Élysée et député de la majorité Thierry Soler est notre invité.
Et on se retrouvera tout à l'heure, Yael, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale Delta Omicron. Notre invité, le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du conseil scientifique. Vos questions, je les imagine nombreuses. 01 45 24 7000, le standard vous attend.
France Inter.
Voilà, c'est ce qu'on écoute tous les matins à 7h, religieusement, le 7-9, avec Nicolas Demorand. Mais vous, l'artiste Françoise Petrovitch, vous avez mené une expérience tout à fait incroyable avec France Inter. Expliquez-nous, tous les matins, alors avec ce flux d'informations qui nous tombe dessus dans tous les domaines.
Mais c'était en 2000, je voulais... Vous savez, on parlait du grand bouleversement du 2000, je sais pas, tout allait exploser, numérique, je sais pas, enfin bon, bref. Et je me suis dit, mais je veux faire quelque chose là sur ce passage, justement, sur l'entre-deux, le passage, le devenir. Et j'écoute beaucoup la radio, pas que France Inter d'ailleurs, mais là, je me suis dit pour la radio, j'écoute beaucoup la radio et la radio, on l'écoute, mais on répond pas. C'est-à-dire qu'on entend. Moi, j'aime beaucoup écouter.
Vous pouvez toujours parler à Nicolas, l'appeler au téléphone si vous voulez.
Ah non, je n'ai jamais essayé. Et donc, on a beaucoup d'informations, mais on participe pas. Et je me suis dit, je vais répondre par un dessin. C'est-à-dire que ce que j'entends, la première info que j'entends le matin, j'appuyais sur le magnétophone parce qu'il n'y avait pas d'ordi. Hein. Donc, j'appuyais sur le magnétophone et je dessinais. Ce que j'entendais là, genre le Omicron, comment il s'appelle
Omicron, comme vous voulez.
Voilà, je sais pas, du coup on apprend ce mot. J'aurais dessiné un espèce de microbe, micron, virus, et dans ma journée, j'aurais dessiné un moment de ma vie. Donc c'était un peu le collectif, le public, et d'un côté le privé, et était composé du coup un espèce de diptyque qui n'avait rien à voir entre ce que j'entendais le matin, donc que je connaissais pas, c'est le bruit du monde. Et puis ma vie, et j'ai mené ça pendant 2 années, donc j'ai une installation qui fait 1465 dessins, je crois.
Et qui se lit, entre guillemets, qui se regarde comme une sorte de journal intime.
Voilà, mais avec le bruit du monde, par la parole. Je voulais dessiner ce que j'entendais, donc là c'était pas dessiner des formes que je voyais, mais dessiner quelque chose que j'entends. Ça, c'est intéressant aussi.
Et quand vous n'écoutez pas la radio, vous écoutez quoi? Des voix intérieures?
Oui, quand j'écoute pas la radio, j'écoute assez peu de musique, donc plutôt, ouais.
Comment se passent vos journées, Françoise Petrovitch? Je sais que vous avez un très grand atelier maintenant en banlieue parisienne. Vous attendez l'inspiration ou tout vous attend dès le matin, justement, après la matinale de France Inter?
Alors, non, j'attends pas. Il n'y a pas d'inspiration. Je travaille, je déjeune et je vais à l'atelier. Mais je travaille.
C'est-à-dire que vos tableaux, vous les avez quittés, ils sont en devenir et vous attendent.
Exactement.
Tout est en attente tout le temps.
Oui.
Pas de crise, de panique, pas de...
J'ai jamais eu.
Pas de peur du blanc et de l'impossibilité d'inscrire quoi que ce soit, ni dans l'espace, ni sur la page d'un papier, tout le temps.
Bah oui.
Ça n'a pas l'air de vous étonner. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne que de votre cerveau, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est seulement de votre cerveau, je pense que c'est de votre corps tout entier, que viennent toutes ces sensations, ces émotions. Et vous êtes une artiste, on a l'impression, qui déposait sur des supports différents ce qui vous arrive. De quoi êtes-vous dépositaire ?
De ce qui nous arrive aussi, du monde, de ce que je vois, des fragilités des gens, des... Je dépose pas, par contre, des gens de pouvoir, hein.
Non, c'est pas votre genre.
Non, mais c'est vrai. Je ne magnifie pas les gens de pouvoir, je les représente pas, je n'en parle pas.
Vous les ignorez, ils ne vous intéressent pas.
Pas vraiment. Ils sont suffisamment présents, comme ça, pour essayer de s'en débarrasser un peu, quand on peut.
Oui, donc la peinture, c'est peupler notre univers de gens avec qui on aurait envie de vivre et pas de gens que les médias nous imposent.
Exactement.
Pourquoi faites-vous de tous vos personnages, aussi bien masculins que féminins, aussi bien enfants qu'adolescents, aussi bien adultes femmes que adultes hommes, des personnes très fragiles, très, à la fois très sexy, parce qu'il y a quelque chose de très attirant sexuellement à l'intérieur de certains de vos tableaux, et en même temps de très potentiellement blessés, vulnérables. Voilà, est-ce que vous acceptez ce terme de vulnérabilité pour tenter de décrire à la radio une sorte de constante de votre travail d'artiste, Françoise Petrovitch?
Bah oui, parce que c'est ce qui me touche. En réalité, c'est ce qui me touche. Par exemple, dans la série de... Je réalise depuis 3 ans une grande série autour des Saint-Sébastien. Donc c'est, pour moi, c'est la beauté souffrante. Donc c'est ce qui me touche, c'est ces jeunes hommes que je voyais dans la peinture qui étaient, qui sont des corps aussi bien en extase qu'en douleur, des corps qui sont finalement au vu de tous, dans, voilà... Et puis c'est la recherche de la beauté, de la ligne, de la courbe, de la contre-courbe, de cette ombre, de voilà, du bras qui voilà, la lèvre qui est ourlée juste comme il faut. Enfin, il y a un truc, le plissé du vêtement qui est juste bon, tout est beau, quoi. Tout se répond, tout est harmonieux. Il y a, et en même temps, tout va être détruit et tout est très dur et tout est cruel.
Est-ce que la religiosité de certaines peintures du passé vous inspire? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de vos visites au Louvre, vous avez parlé des yeux fermés, vous avez fait toute une série sur Ingres, là vous êtes en train de travailler sur la figure de Saint-Sébastien. Est-ce que ça constitue pour vous une source permanente de création plus que l'art qu'on dit contemporain?
Peut-être. Je crois que je suis plus touchée. Je suis beaucoup plus émue de voir une peinture ancienne.
Dans les peintures anciennes, il y a souvent, même si elles sont dans la thématique de la religion et qu'elles mettent en scène des personnages de la Bible, il y a souvent des paysages. Et dans ces paysages, il y a souvent des corbeaux. Et chez vous aussi, Françoise Petrovitch, il y a beaucoup de corbeaux. Alors, je vous propose d'écouter un homme merveilleux qui connaît très bien les corbeaux, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Michel Pastoureau et qui va nous parler de la couleur noire et du corbeau. C'est une Archivina 2020 et c'était au micro de Mathilde Wagman.
Oui, en tout cas pour les périodes historiques et spécialement pour l'Europe chrétienne, ce noir est un noir péjoratif. Toutes les couleurs sont ambivalentes et le noir a ses bons et ses mauvais aspects. Mais quand même, les mauvais aspects l'emportent sur les bons. C'est la couleur de la mort, c'est la couleur des ténèbres, c'est la couleur du monde souterrain, c'est la couleur des enfers, c'est une couleur de mauvais augure. Et les animaux noirs sont des animaux dont on se méfie ou que l'on rejette. Et le corbeau qui est tout noir, fait peur, bien sûr. D'autant qu'il y a corbeaux et corbeaux. Les nôtres, aujourd'hui, sont plutôt de petite taille, les corbeaux freux et les autres corvidés. Mais dans les sociétés anciennes, on avait affaire au grand corbeau, qui est devenu assez rare en Europe. Quelques exemples encore en pays de montagne ou dans des falaises de bord de mer. Mais le grand corbeau, c'est un animal énorme. J'en ai vu, moi, seulement dans des eaux, qui, posé sur ses pattes, peut atteindre 80 cm de haut, qui a une tête énorme et qui est entièrement noire, et d'un noir plus noir que noir, outre noir, dirait Soulage.
Oui, qualifier. Jusqu'à son bec. Hein.
Jusqu'à son bec, qui est d'un noir presque bleuté, tellement il est noir.
Alors, les corbeaux et vous, quelle histoire, Françoise Petrovitch? Il y en a beaucoup, hein?
Aucune histoire, mais les corbeaux en peinture, c'est une silhouette, c'est une absence. Au lieu qu'elle soit blanche, c'est un corbeau noir du bec au corps entier, c'est une silhouette toute noire, donc c'est un plat, donc c'est une surface plane. Donc ça raconte une autre perspective dans la peinture, et ça permet de donner un autre espace.
Pas question d'interpréter à l'aune d'Hitchcock ou à l'aune de la signification.
Pas vraiment, pas vraiment.
Et pourtant, quand on regarde un cycle que vous avez fait avec notamment des jeunes gens et des jeunes femmes qui étaient étendus, avec des corbeaux comme horizon dans le ciel, on se dit que les corbeaux surveillent les humains.
Oui, alors là, c'est la série des étendus avec le personnage qui est étendu dans un espace qu'on ne comprend pas très bien. On n'est ni dans un intérieur.
D'ailleurs, on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive quand on vous voit, quand on voit votre travail, Françoise Petrovitch. On est justement projeté dans un univers complètement déstabilisé.
Ben pour les étendus, c'est vrai qu'on ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas s'ils dorment, on ne sait pas s'ils sont dehors dans un parc, ou sur un sofa, ou... Moi, je ne sais pas. Et puis, il y a l'oiseau qui est un peu surdimensionné aussi, qui est au-dessus. Et
on ne sait pas s'il veille ou s'il va venir picorer le visage.
Je ne sais pas trop. Et ils sont ces oiseaux qui volent pas vraiment. Hein. Ils sont comme s'ils étaient posés, mais ils sont quand même dans le ciel. Donc c'est vrai que tout est en bascule. Hein. Tout est en bascule.
Mais tout est toujours en bascule chez vous. Parlons de la manière dont vous réussissez à l'intérieur de votre travail, et notamment dans le dernier cycle, je crois, de votre œuvre, à mêler le dessin et la peinture. Vous l'avez dit, dès votre tendre enfance, vous étiez une dessinatrice. C'est un don que vous aviez et que vous avez toujours. Et puis, vous êtes devenue peintre, vidéaste, céramiste, etc., sculpteur. Mais vous faites aussi toute une série d'œuvres où le dessin et la peinture se rejoignent. Comment et pourquoi? Là aussi, c'est le flou, c'est l'éloge du flou.
Ça c'est, je crois que c'est la grande question qui me travaille depuis très longtemps sur comment la ligne peut être dans la peinture. L'académie avant opposait peinture et picturalité et dessin, la probité d'Ingres, la peinture de Delacroix et Matisse, je trouve, a réuni d'une manière formidable le dessin et la peinture.
Mais il a fait des dessins qui étaient en écho, évidemment, et en résonance avec sa peinture. Mais en même temps, il a séparé les deux pratiques, Matisse. Alors que vous, Françoise Petrovitch, dans toute une série, eh bien, vous allez introduire de la peinture dans le dessin, ou plutôt de la peinture à l'intérieur du dessin.
Exactement, oui.
De la même manière que vous faites des vidéos, vous nous entraînez ainsi dans des domaines complètement novateur de ce que ça veut dire regarder. Qu'est-ce que ça veut dire regarder? Ça sera la dernière question.
Regarder? Mais c'est vivre. Je sais vivre, regarder. Pour moi, je regarde, je vis.
C'est drôle parce que dans ce studio, vous dites regarder et hop, vous tournez la tête et vous regardez le ciel, le petit bout de ciel.
Ouais, je regarde là, oui, la fenêtre là. Parce que, on voit pas beaucoup, hein. C'est assez gris.
Ouais, mais ça suffit. Ben merci infiniment, ben Françoise Petrovitch. Merci beaucoup.
t'es fragile. Vous êtes à Tina. Je vide mon sac mobile. Maman tourne à l'idylle. Dodo avec des huiles. Et dès je la savais. Docteur, je vois ailleurs. Zombie, je me vois en l'air.
Tant pis, je veux me faire avoir.
Termine cette émission comme on l'a commencé, c'est-à-dire avec l'éloge du flou artistique inspirant. Vous avez peut-être reconnu la voix de Charlotte Gainsbourg avec cette nouvelle chanson « Naturopathe » avec Soda Bodega. Merci encore Françoise Petrovitch. Je rappelle vos multiples actualités. En ce moment, l'exposition au fond Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau et jusqu'au 3 avril 2022, le catalogue de l'exposition, un livre d'entretien passionnant chez Manuela Édition, et puis en octobre prochain, vous serez exposé à la Bibliothèque Nationale de France. Merci à Guillaume Roux qui est à la régie technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas, Iris Vertanessian, Jean-Baptiste Dibert pour ses choix musicaux et Camille Maty qui a réalisé ce soir cette émission.